grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour, je suis revenu des Saintes-Maries de la Mer, là. Alors, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. J'avais prévu d'intervenir en direct, au téléphone, et puis les circonstances ont fait que ce n'a pas été possible. Faut dire que quand on vit aux Saintes-Maries, tout le prévu devient imprévu. Il se passe des choses en direct. Enfin, on vit la gitanie, comme on dit. Eh bien, j'ai passé une semaine là-bas, une semaine assez formidable, et je voudrais commencer par envoyer des remerciements, de grands remerciements à Esmeralda Romanez, à Nouka Maximoff, à Catherine Pérignon, qui m'ont ouvert des portes. Grâce à elle, j'ai fait la connaissance d'un tas de gens très intéressants, de Guy, de Yolande, de Florine, d'Alicia, de Sorine, de Rodica, de Anne, de Voltaire, de Christophe. Et puis j'ai rencontré des amis que je connaissais par Internet, mais que je n'avais jamais rencontrés. Rémi, Sébastien, et puis j'ai rencontré sur place, et grâce à tous ces gens-là, j'ai rencontré Thérèse, j'ai rencontré Francine Jacob, j'ai pris des contacts pour de futures émissions avec Sacha, avec Gérard Gettner, avec Payou Baptiste. J'ai enregistré aussi des émissions avec Milo Delage, avec Yanouche, avec Frisette. J'ai assisté à un baptême rhum dans l'église des Saintes-Marie. J'ai assisté, grâce à Nouka Maximoff, au cours d'une réunion très privée à la remise du prix Romanès à Manita de Platas. Et j'en oublie des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont donné plein de bonheur pendant cette semaine. Je voudrais ajouter une pensée particulière pour Félix Monget, qui se faisait une fête de venir au Sainte-Marie avec nous et qui n'a pas pu venir. Voilà. Alors, vous raconter les Saintes-Maries, ce serait à la fois trop compliqué, et puis c'est encore trop frais dans mon esprit pour que j'en parle. J'ai ramené plein de sons, et puis... alors, les sons, le problème, c'est qu'il faut les trier après, parce que... Il y en a qu'on prend comme ça en croyant que ça va être bon, et puis ça s'avère être un bordel indéfinissable. Et puis, c'est long, ça prend du temps, et puis je vous dis, il me faut du temps pour assimiler tout ça. Je vais vous faire quand même écouter une petite ambiance des rues des Saintes-Maries. C'est un son qui est absolument pas nettoyé. C'est absolument comme c'était. Ça dure 2 minutes 50, simplement pour que vous vous rendiez compte.
C'est là-bas, là-bas.
Oui, non, mais je sais pas, voilà.
C'est pas les chanteurs d'abord ou je sais pas.
Oui, non, mais...
Ce que j'adore, c'est, je ne sais pas ce qu'elle te dit de moi, je ne sais pas ce qu'elle te dit de moi, mais dès qu'elle est avec moi, elle est en train de faire ça, ça me va.
Una campana suena, mira que bonita ella, una campana suena, mira que bonita ella, ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar. Ya está, la campana va a sonar. Señorita, señorita, la campana va a sonar. Señorita, señorita, la campana va a sonar. Ya está, la campana va a sonar. Ay, yo diré. campana suena.
Hola, mon cousin.
Pour la campana suena.
Alors, comme je vous disais, je n'ai pas eu le temps de trier tous mes sons et pourtant je voulais faire une émission aujourd'hui, une émission avec des sons qui viennent des Saintes-Maries. Il se trouve qu'au cours de ce séjour, Nouka Maximoff organisait plusieurs choses. D'abord une exposition des photos de son père, Matteo Maximoff, mais aussi pendant une heure, elle nous a raconté des contes. Et bien, on va écouter Nouka nous dire un de ses contes.
Gelem gelem lungo nedro menza maladi lei bahtale romenza ah romale Kataraven amare chavale andatzaren katare bukare Kataraven amare chavale andatzaren katare bukare Ah, romale. Ah, chavale. Ah, romale. Cigane, Rome, gitan, manouche, gens du voyage, bohémien, romanichel, boumian, gueux, vagabond, saltimbanque. Ils vivaient heureux et tranquilles. Loin d'ici, très loin, dans une région au nord-ouest de l'Inde. Ils étaient certains itinérants, d'autres
habitaient des villages. Ils exerçaient leur métier, beaucoup travaillaient les métaux. Certains étaient forgerons, d'autres joailliers fabriquaient les bijoux. Certains étaient marchands sur les routes. D'autres étaient artisans, fabriquaient tout un tas de choses. Certains s'occupaient des animaux. Certains même dressaient des animaux pour le cirque, des singes, des petites chèvres. Mais la plupart, beaucoup d'entre eux en tout cas, étaient musiciens, chanteurs, danseurs, saltimbanques. Ils ont quitté ce pays. Il y a longtemps, très longtemps, je ne saurais dire. Pourquoi sont-ils partis, je ne sais pas. Quelle direction ont-ils prise? Plusieurs directions. Ils se sont éparpillés. On les a vus arriver dans nos régions, en Occident. Ça, on le sait, au 15e siècle, vers les années 1400 et quelques. Alors, 1400 et quelques, je ne sais pas si vous situez, parce que l'histoire, hein, on a vite oublié. 1400 et quelques, c'est à l'époque où on a brûlé Jeanne d'Arc. On était en guerre contre les Anglais. Il y avait des rois, des reines, des évêques, des nobles. Et ces gens-là sont arrivés. On les a vus venir un peu, d'un côté et de l'autre. On leur a donné divers noms. Égyptiens, bohémiens, romanichels. Qui a donné par la suite d'autres noms, mais je ne vais pas vous faire un cours. Les historiens et les tsiganologues sont là pour ça. Parce qu'il y a des tsiganologues. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tsiganologue. Un tsiganologue, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à justement essayer de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils vivent. Donc, les tsiganologues et les historiens, eux, disent qu'ils ont quitté l'Inde entre le 9e et le 10e siècle, c'est-à-dire il y a plus de 1000 ans, et qu'ils sont arrivés en France en 1500 et quelques. Bon. Mais moi, qui ne suis ni historienne, ni tsiganologue, qui ne suis que tsigane, j'ai voulu en savoir plus sur mes ancêtres. Et je me suis dit, mais avant qu'on les voit là, ils étaient bien quelque part, ils ne sont pas nés, ce n'est pas une génération spontanée de tziganes qui arrivaient sur la terre comme ça. J'ai voulu savoir et j'ai fermé les yeux et j'ai remonté le temps. Et je suis remontée loin, loin, encore plus loin. Et je suis arrivée à un moment où il n'y avait rien. Enfin, quand je dis rien, ça, ce n'est pas possible, le néant n'existe pas. Bien sûr, il y avait Dieu. Mais Dieu était seul, au milieu de rien. Il n'était pas tout à fait seul. Il y avait quelques anges, mais les anges n'existaient pas vraiment. C'était des émanations de Dieu. Et ces anges jouaient de la musique. Mais enfin, c'était pas vraiment de la musique. C'était de la musique d'anges, de la musique céleste, de la New Wave. Et cela faisait combien ? De milliers et de milliers et de millions d'années que Dieu entendait une seule chose : la musique des anges. La musique de l'univers. Et Dieu commençait à s'ennuyer. Il en avait tellement assez d'entendre ça, qu'un jour, de sa voix puissante, il a crié « Stop ! Dosta, ça suffit comme ça, la musique des anges !» Et sa voix a été tellement puissante que ça a créé l'univers. Imaginez la puissance de ce Dieu. Et alors là, on a vu surgir des soleils, des planètes, des étoiles, tout ça, rien que par la puissance de son souffle. Et Dieu a commencé à trouver ça distrayant. Il était très content de ce qu'il avait fait, parce que Dieu, généralement, est assez satisfait de ce qu'il fait. Il a commencé à jouer avec les étoiles, les planètes, en envoyant les unes sur les autres. Quelquefois, deux se percutaient, puis hop, ça donnait naissance à d'autres planètes, et ainsi de suite. Et Dieu, ça l'a diverti pendant un moment. À un moment, il a pris une planète comme ça, au hasard. Et puis, il s'est dit, tiens, mais je pourrais faire quelque chose avec ça. Et il a soufflé la vie sur cette planète. Alors là, ça a donné des forêts, des montagnes, des déserts, des lacs, des mers. Toute la nature a été créée sur cette planète-là. Et la vie étant née, eh bien, les animaux ont commencé à affluer, les animaux, des baleines dans les mers, des poissons dans les rivières, des mammifères dans les terres, des lézards qui rampaient, des oiseaux qui volaient dans les arbres, au milieu des fleurs, tout ça était beau. Ah, Dieu, comme toujours, était assez satisfait de ce qu'il avait fait. Ça l'a distrait un moment, il allait se promener, écouter le chant des oiseaux, bavarder avec les poissons dans les rivières, et écouter tout ça, et les folâtrer dans les jardins merveilleux, parce que c'était couvert de fleurs de toutes sortes, et de plantes. Mais au bout de quelques millions et millions et millions d'années, Dieu a recommencé à s'ennuyer. Vous comprenez? Il y avait beaucoup de jolies choses à regarder. Mais le problème, c'est qu'il était toujours seul. Il n'avait personne à qui parler. Personne avec qui partager toutes ces richesses. Parce que vous savez, le bonheur qui n'est pas partagé, ça n'existe pas. Ça sert à quoi? On ne peut pas être heureux pour soi-même. Alors Dieu a eu envie de créer cet être-là qui serait là pour parler avec lui, d'égal à égal, d'homme à homme, ou de Dieu à Dieu, je ne sais pas comment il a vu ça. Il a eu envie de créer un être à qui il pourrait partager ses sentiments, son intelligence, son amour, à qui donner et de qui recevoir en retour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Dieu, quand il voulait créer quelque chose sur la terre, il avait une technique. Je vais vous raconter. Tenez-moi une chaise. N'oubliez de me mettre une chaise. Attends. Alors, Dieu, quand il voulait créer quelque chose, il prenait de la terre, de la glaise. Il façonnait, il cuisait et il donnait la vie. Dieu, ce jour-là, a pris de la terre glaise. Il a façonné de ses mains un être qui était une sorte de mammifère avec une tête, un corps, deux bras et deux jambes. Et celui-là était particulièrement fin et rassé, très beau. Et puis les jambes de derrière étaient beaucoup plus longues. Et il l'a fait de façon à ce que cet être-là, au lieu de ramper ou de courir à quatre pattes, cet être-là se tienne debout, de façon à pouvoir être en face de lui. Il lui a donné des proportions merveilleuses. C'était très beau. Mais vous savez, la terre, quand vous avez déjà fait de la poterie, l'argile, pour que ça reste solide, il faut la cuire. Alors Dieu, il n'avait pas encore inventé le four à micro-ondes, tout ça. Il a fait un trou dans la terre, qu'il a tapissé de pierre. Il a mis dessus des branches pour faire du feu, pour faire des braises. Une fois qu'il y a eu des braises, il a posé sa petite statuette dessus, il a recouvert le tout avec des feuillages et de la terre, en laissant le soin de laisser un petit peu une petite cheminée pour que la fumée puisse s'échapper. Parce que vous savez que dans un endroit complètement clos, s'il y a de la chaleur, ça fait enfler l'air et ça explose. Donc lui, il savait ça, Dieu, hein, il connaissait tout ça. Il a fait ça. Et puis, il s'en est allé se promener, aller voir ses kangourous, ses girafes, ses poissons dans l'eau, voir tous les beaux volatiles dans les arbres. Mais quand il est revenu, de loin, il a vu une épaisse fumée noire sortir par la cheminée. Il s'est précipité et il a cassé vite le four de son talon. Il a sorti, il a tout déblayé, il a sorti la petite statuette en se brûlant un peu les mains, il a regardé. Elle était trop cuite. Ça se voyait qu'elle était trop cuite. Elle était toute noire. Elle était toute noire. Et puis alors, les yeux noirs, la peau noire, les cheveux noirs, tout était noir. Les cheveux étaient trop brûlés, ça se voyait bien. Ils étaient tout ratatinés sur la tête. Il a soufflé un petit peu pour enlever la poussière. Puis il l'a regardé, il a dit... Oh, je vous ai dit que Dieu, généralement, était assez satisfait de ce qu'il faisait. Elle était belle quand même, même trop cuite. Elle avait gardé ses belles proportions, elle était très belle, tout ça. Donc, il n'était pas satisfait à 100%, disons à 99%. Et comme il voulait la garder, parce qu'elle lui plaisait bien, il a fait comme il faisait d'habitude, il a soufflé dessus, puis de son souffle lui a donné la vie. Et c'est ainsi, chers amis, chers enfants, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous le savez, qu'est né le premier homme noir, puisque le premier homme sur Terre était noir. Bon, comme Dieu veut que ça soit vraiment parfait ce qu'il fait, il a décidé de recommencer. Il a repris de la terre, il a refaçonné une statuette toute semblable à la première en respectant tout à fait les proportions. Il l'a même peut-être fait encore mieux que la première. Il a fait son four, il a mis sa statuette dans le four, il a refermé. Mais alors là, il ne s'est pas éloigné. Hein. Il est resté tout près. Et il écoutait si ça frémissait. Dès qu'il a entendu que ça crépitait à l'intérieur et qu'il a vu une toute petite fumée qui s'échappait, vite il a cassé le four et impatient, il a pris sa petite statuette dans la main. Elle n'était pas assez cuite, dit-on. Ça se voyait qu'elle n'était pas assez cuite parce qu'elle n'avait pris aucune couleur, elle était toute blanche. Elle était toute blanche, les yeux très clairs, des longs cheveux blonds, filaces un peu. Il avait l'air de manquer un peu d'énergie. Il n'était pas fini. Mais bon, il avait quand même gardé toutes ses belles proportions. Et il était très joli à regarder. Et Dieu a décidé de lui donner la vie. De son souffle, il lui a donné la vie. Et voilà, mes chers amis, chers petits-enfants, tous, comment est né le premier homme blanc. Voilà que Dieu a les deux hommes, un noir et un blanc. Il dit, qu'est-ce que je vais en faire de cela? Alors, le noir, qui a beaucoup cuit, je ne peux pas l'envoyer dans les régions froides parce qu'il ne va pas supporter. Alors lui, je vais l'envoyer dans les régions où il fait bien chaud, dans les savanes, dans les déserts, dans les brousses. Comme il a déjà eu très chaud, ça ne l'ennuiera pas, il va très bien s'adapter. Mais le blanc, là, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne peux pas l'envoyer là-bas dans la brousse et dans la jungle, il ne va pas tenir le coup, il n'est pas assez solide. Ben, j'y l'ai envoyé dans les régions tempérées, dans les régions froides, disant que là, il pourrait très bien s'adapter. Mais comme Dieu n'était pas satisfait à 100%, il a décidé de refaire un troisième essai, en disant, celui-là, il faut que ce soit le bon, quand même. Il a pris de la terre, et alors là, il a mis encore plus de soin que pour les deux précédents. Il avait déjà la technique, il y a mis encore toutes ses connaissances, toutes ses facultés dans cette figurine-là. Une fois qu'elle a été bien parfaite, il l'a mise dans le four. Il a recouvert le four. Mais alors là, attention, il est resté à côté. Il a fait très très attention. Il écoutait les braises chauffer à l'intérieur. Il écoutait comment ça crépitait, comment ça grésillait un petit peu autour. Il tâtait de la main le four pour qu'il ne soit pas trop chaud et qu'il ne se refroidisse pas. Et quand il a vu une belle fumée blanche sortir par la cheminée, il s'est dit que c'était le moment. Il a, avec beaucoup de précautions, cassé son four. Il a sorti la statuette. Et là, elle était bien. Elle était parfaite. Elle n'était pas trop cuite, ni pas assez. Elle avait une belle couleur cuivrée, ambrée. On aurait dit une miche de pain qui sort du four. Elle était exactement comme il l'avait pensée, comme il voulait qu'elle soit. Alors là, Dieu, tout à fait satisfait de son œuvre, a soufflé sur la statuette et lui a donné la vie. Et voilà comment, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, est né le premier tzigane. Et là, Dieu a dit, il aurait voulu le garder pour lui, celui-là, hein, mais il voulait le laisser libre. Il avait décidé dans son esprit que l'homme serait libre. Alors il a dit, qu'est-ce que je fais? Je peux l'envoyer dans les pays chauds, ma foi. Il m'a l'air assez solide, assez résistant. Je peux l'envoyer dans les pays froids. Il s'adaptera, peut-être difficilement, mais je pense qu'il n'est pas capable de s'adapter à tous les milieux. Tiens, c'est bien celui-là. Il sera libre d'aller partout où il veut sur cette terre.
dans les pays chauds, dans les pays froids, dans les brousses, dans les déserts, dans les savanes, partout, au même en haut des montagnes, il pourra y aller. Et Dieu l'a laissé partir avec regret, mais avant de le laisser partir, il lui a fait un don supplémentaire. Il lui a fait le don de la musique, vous savez, la musique des anges. Il lui a fait ce don-là, en disant, celui-là est tellement beau, je l'aime tellement, que partout où il ira, il sera mon messager, et il apportera autour de lui, grâce à cette musique, la joie, l'amour, la paix, la fraternité. Et voilà donc, mes chers amis, comment j'ai retrouvé l'origine des tziganes, des premiers tziganes. Alors, bien sûr, les historiens, les tziganologues, risquent de me contredire, de ne pas être tout à fait d'accord avec ma version. Mais enfin, je suis conteuse, c'est moi qui compte, qui raconte l'histoire. Et c'est mon histoire, et je n'y changerai pas un iota.
Thank you.
La musique que vous venez d'entendre est de Jean-Max Zelver. Alors Jean-Max Zelver, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet, et la musique que vous venez d'entendre, il l'a composée. Il l'a composée spécialement pour, comment dire, accompagner des photos, un montage photo de Matteo Maximoff. Et Jean-Marc Zelver, vous avez peut-être entendu, c'est très curieux la musique qu'il fait. C'est un mélange de musique tzigane, de musique yiddish, de musique classique. C'est un musicien qui personnellement m'étonne et je lui consacrerai une émission entière à la rentrée. Voilà, enfin c'est, je trouve que ce qu'il fait est super intéressant. Eh bien voilà, cette émission va être terminée. Comme d'habitude, j'ai pris l'habitude, je vais pas m'en passer. Je vais vous dire quelques textes sur la musique de générique. Et aujourd'hui, ce seront des textes de Jean-Marie Cardiche. Je suis habité par un poète. Ils pensent tous que c'est moi, parce que c'est moi qui écris. Mais c'est lui qui, jour et nuit, m'oblige à supporter ses tourments. Il prend ma main, la fait glisser sur la feuille. Il pense et j'écris ses pensées sans rien dire. Je supporte son angoisse, son mal de vivre, ses colères. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ? Avant, je dormais dans ma roulotte en tout lieu. Un jour, il m'a forcé à découvrir les fleurs des champs. Il m'a reproché d'avoir au cirque frappé les bêtes. Je lui ai dit « Montre-toi, sors de mon esprit, qui es-tu ?» Je reste sans réponse. Depuis de nombreuses années, j'ai perdu le goût du luxe. Je n'aime plus l'or. Tout cela à cause du poète qui vit en moi. Hier, je volais des poireaux dans les jardins. Aujourd'hui, on m'écrit des lettres d'admiration quand je souffre d'angoisse. Pitié, poète, montre-toi, délivre-moi de toi et donne tes pensées à un autre. Enfant, je portais la sainte auréole du jeune Manouche qui devait dérober ce que le monde lui avait volé, c'est-à-dire la grâce d'être ce que j'étais. Alors, je me vengeais, et aucun noix, poireau, chou ou pomme de terre ne me reprochait de les avoir volés dans le champ de leurs paysans. Bien au contraire, je les débarrassais de leur prison de terre où ils étaient destinés à la consommation d'une majorité d'imbéciles. Les choux, les poireaux et les pommes de terre me tendaient leurs mains pour être déracinés. Cette complexité était belle. La poésie soulevait son voile et je voyais ses yeux. Mangave, c'est-à-dire mendier ou obtenir. Chourave, liave, c'est-à-dire voler ou chiner. Les gadgets aujourd'hui connaissent ce langage du départ, mais ils ont beau le connaître. Jamais les pommes des vergers ne leur tendront leurs mains. Je suis vagabond, comme Adjad ou Kalib était tisserand. Un de ces êtres qui ne représentent rien pour le monde. Leur pauvreté fut l'origine de la poésie. Ces poètes prenaient entre leurs mains un bout de ciel et le caressaient délicatement, comme on caresse un nouveau-né. Et soudain, la parole était vêtue de poésie. Pour gagner quelques sous, Je garde un immeuble devant lequel j'essaie à mon tour d'attraper un morceau de ciel. Quand j'y parviens, le ciel se pose sur ma poitrine et il écoute les battements de mon cœur. C'est bon de sentir que quelqu'un s'intéresse à moi quand je suis seul, debout pendant des heures. Sous l'immeuble, il y a la terre. Je sens l'émanation de son parfum. C'est elle qui, dans sa main, tient ce château de béton et de verre. Cela me console de savoir que c'est la terre qui est sous mes pieds et que mes pieds sont posés sur son cœur. Dans mon enfance, j'étais déjà tout perdu parce que mon âme m'avait déjà instruit à mon insu. J'ai vécu avec ma grand-mère dans une verdine à Aubervilliers, puis à Clichy. Mes parents faisaient travailler des chiens savants. On leur faisait revêtir toutes sortes de costumes. On présentait nos chiens dans les cinémas à l'entracte. C'était l'attraction. Après, on rentrait sous la pluie. Les chiens étaient mouillés, ça sentait. Et l'odeur se mélangeait à celle du pétrole quand on était dans la verdine. On se réchauffait dans cette odeur immonde et on mangeait une soupe au cube avec des petites pâtes de vermicelle. Parfois, mes parents se battaient. Je les séparais et mon père me jetait dehors dans la boue. On ne peut pas oublier tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais égaler Pégase, le cheval-ange, et avoir la douceur de son galop qui va de nuage en nuage. Il cherche un gîte pour dormir. Il a passé des roues à ses doigts, sa main et son gîte, une roulotte qui chemise sur la plage. Sa main cahote sur le chemin, ignorant de la pensée. Le roulis de sa main laisse de longues traces. C'est une belle écriture. L'écriture des ronces sur la chaussée boueuse. L'aube et son frimas. La gelée qui enlace l'herbe verte. Le froid, c'est bien dessiner la mouvance. La porte est entrouverte, le café fume, le vent vient partager un peu d'arabica. Le gitan regarde au dehors, le vent vient lui serrer la main.